poule aux vanilles.
Je pense que j'aime bien la framboise.
Ouais, je pense que je vais prendre deux poules vanilles.
Deux poules vanilles !
Bonjour à toutes et à tous, c'est Morgane. Bienvenue dans Deux boules vanilles, le rendez-vous estival de Canal B, tous les jours de l'été à 17h et en rediffusion le lendemain matin à 9h. Depuis 6 ans, Canal B mène un partenariat avec l'association Langue et Communication qui dispense des cours de français aux personnes migrantes et allophones. Avec Anaïs Hiver, formatrice, nous avons mené une douzaine de projets autour de thèmes comme la cuisine du monde, la fête, la musique, l'accueil digne des personnes migrantes, la certification linguistique, etc. Ce printemps, les apprenants et apprenantes ont choisi de travailler autour des droits des femmes en France et dans le monde. Yael ont rencontré Amandine et Jessica du syndicat Front de Mer Rennes et Maya de l'ASFAD, Maison des Femmes Gisèle Halimi de Rennes. Des interviews menées par Farida, Marilou, Maria, Natalia, Irina, El Sadig, Amani, Radia, Zoya, Batoul, que je vous propose d'écouter ou de réécouter dans ce De Boule Vanille.
Ouais, allez.
Bonjour, je m'appelle Farida et merci d'avoir accepté de nous rencontrer et de répondre à nos questions. Nous apprenons le français à l'association Langue et Communication et nous préparons une émission de radio avec Morgane sur le sujet des droits des femmes.
Qui a créé Front de Mer?
Alors, le Front de Mer, il a été créé à côté de Paris, à Bagnolet, par Fatima Ouassak et Gundo Diawara, qui avaient besoin de se rassembler pour pouvoir défendre les enfants, en fait, notamment par rapport à l'école, il y avait des problèmes à la cantine ou des choses comme ça, et du coup, toute seule, c'était difficile de défendre les enfants, donc elles se sont rassemblées, parce que ensemble, on a plus de force, quoi. Donc voilà, ça a été créé en 2016 à Paris, et ensuite, il y a plusieurs antennes à Strasbourg, et celle de Rennes a été créée en 2020, je crois.
Qui est Fatima Ouassak?
Alors, Fatima Ouassak, c'est une personne super. Moi, j'écoute toujours avec beaucoup d'attention. C'est une femme politique. Elle a fait des études de politique. Donc, elle est politologue et militante et écrivaine. Donc, elle a écrit plusieurs livres vraiment dont celui qui est un peu la fondation. Enfin, il y en a deux qui sont vraiment les fondateurs du Front de Mer. C'est La puissance des mères. Donc, c'est vraiment pour redonner de la place aux mères de famille, dire que c'est nous les premières garantes des droits de nos enfants. C'est nous qui nous en occupons le plus. Donc, c'est nous qui sommes là pour les défendre et c'est nous qui connaissons le mieux nos enfants, donc qui avons vraiment le droit de les défendre. Et le deuxième, c'est pour une écologie pirate. Et là, c'est l'idée d'une écologie populaire, c'est-à-dire que même dans les quartiers populaires, même avec peu d'argent, on veut que nos enfants et notre famille mangent bien. Voilà, donc on se bat pour pouvoir cultiver nous-mêmes des légumes dans des jardins partagés, dans le quartier, etc. quoi.
Est-ce que votre activité est locale ou est-ce que vous agissez aussi pour des familles à l'étranger?
Le Front de Mer, c'est pas nous qui défendons les gens directement, c'est plutôt nous qui donnons de la force aux personnes pour qu'elles puissent se défendre elles-mêmes. On est bénévole et c'est un principe d'auto-organisation. Ça veut dire que c'est nous qui, enfin, on va aider à trouver les bons numéros, des bons avocats ou tout ça, mais c'est pas nous qui faisons. C'est vraiment, on se dit, allez, on se met ensemble, on va trouver une solution et on va surtout se donner de la force et du courage pour agir ensemble.
Qui a eu l'idée de créer le syndicat Front de Mer à Rennes?
Alors là, c'est deux personnes, Priscilla Zamor et Aurélie Massé, et Lala, donc je n'ai pas le nom de famille, désolée, qui sont les trois cofondatrices, deux habitantes du quartier de Maurepa et une habitante du Blône.
Et pourquoi?
C'est parti d'histoires de violences policières dans le quartier. En fait, sur des enfants et les parents qui ont eu besoin de trouver de la force pour se défendre face à ça. Pourquoi Front des Mères a commencé à Rennes?
Front des Mères a été créé en 2020 ici à Rennes.
Personnellement, qui a vous donné envie de rejoindre Front des Mères?
Tout d'abord, moi, je rejoins Front des Mères parce que ils défendent aussi les droits des enfants handicapés. Et dans mon cas, c'est j'ai une fils qui est autiste, donc c'était une des premières droits. Après, j'ai trouvé des copines et voilà, on se soutient mutuellement et on fait des activités ensemble, reconnaître les quartiers, les habitants, etc. Voilà.
Alors moi, c'est quand je suis arrivée sur le quartier, en fait, donc il y a à peu près 4 ans, mes enfants sont à l'école du quartier et c'est au conseil d'école. Donc c'est le conseil d'école, ça a lieu 3 fois dans l'année et il y a tous les enseignants de l'école, les directeurs, directrices, tout ça, et quelques parents qui sont élus, délégués, représentants des parents d'élèves. Et donc je suis représentante des parents d'élèves et dans notre école, je remarquais que tous les gens qui étaient dans la salle étaient tous blancs. Et je me suis dit, ça ne représente pas du tout notre école, parce qu'il y a énormément de nationalités dans notre école. Je crois qu'il y a à peu près 17 langues parlées, 17 langues maternelles, quelque chose comme ça. Donc, il y a beaucoup de personnes d'origine étrangère. Et je trouvais ça pas normal que ce soit que des personnes blanches qui représentent et qui prennent des décisions pour des personnes qui n'avaient pas la possibilité d'être représentées et de pas, voilà. Mon combat est parti de là et de me dire, il faut que, voilà, que j'emmène avec moi des copines et qu'elles viennent oser être déléguées, oser prendre la parole, prendre une place. Et on y travaille beaucoup avec, notamment, on fait les dragons de l'égalité, des ateliers pour aider les parents à prendre confiance en eux, à oser prendre la parole. Donc, il y a des ateliers sur les droits, très clairement, pour connaître ses droits par rapport au handicap aussi, par exemple, sous forme de théâtre ou quoi, bah, oser s'exprimer, prendre la parole et tout. Voilà, l'idée, c'est vraiment de trouver la force en nous d'oser s'affirmer et défendre chacun les droits de ses enfants, en fait. De pas attendre que ce soit toujours des personnes blanches qui décident pour nous. Je dis ça et je suis blanche, mais justement, je voudrais pas être la seule à décider pour mes amis, quoi. Voilà.
Comment vous organisez concrètement?
On se réunit tous les vendredis. C'est une réunion un peu spéciale parce qu'on fait le repas ensemble, etc. Donc, c'est là où on se rencontre et on parle de tout ce qui va pas et tout ce qui va aussi. Et on a aussi notre café le mercredi matin au centre culturel de Longpré. Tout le mercredi matin, on se rejoint. Il y a des parents dans les quartiers qui peuvent venir rejoindre à nous, de discuter de ce qu'ils veulent, s'ils ont un problème, si on peut les aider, donner des avis, etc. Voilà, donc on a aussi notre groupe WhatsApp. Voilà, on se communique très fluentement avec tout groupe, ou même personnellement si on a un petit souci. Voilà.
Tous les parents des élèves ne connaissent pas leurs droits. Est-ce que vous êtes présente dans toutes les écoles de Rennes?
Pour l'instant, on a très envie de travailler avec l'école, mais pour l'instant, l'école a un peu peur de nous. Parce que bah, justement, on leur fait remarquer que des fois, les droits sont pas respectés et ils ont l'impression, et c'est, en général, ils font du mieux qu'ils peuvent. Donc, ils ont l'impression de faire bien leur travail. Et quand on vient leur dire « Oui, mais là, il y a eu un peu de racisme. Oui, mais là, ça leur plaît pas. » Donc, c'est un peu difficile. On travaille vraiment à essayer de travailler plus en partenariat avec les écoles. Mais par exemple, pour l'instant, on n'a pas le droit d'afficher, par exemple, nos informations dans l'école. Donc, c'est vraiment du bouche à oreille entre habitants. Voilà. Mais notre objectif serait de travailler avec l'école et qu'on soit tous ensemble, bien entendu, pour le bien-être de nos enfants. Mais ça, c'est un travail qu'on fait petit à petit.
Vous demandez les enfants contre les violences dans le quartier populaire. Êtes-vous, on est dehors de l'école, dans la maison du quartier?
C'est un peu comme une maison de quartier ici, le PAM. Donc nos bureaux sont là, nos réunions, on les fait ici. Donc effectivement, on est très souvent ici. Et oui, on ne défend pas les enfants que à l'école. Hein. Effectivement, ça peut être aussi face à des problèmes au centre social ou effectivement dans la rue, des violences policières. Hein. C'est arrivé que une personne du front de mer accompagne les familles qui voulaient porter plainte pour des violences policières qui se sont produites dans la rue. Donc vraiment. On aide tout ce qui est sur l'espace public, l'école, la rue, les maisons de quartier, tout, oui. Ouais. Après, l'idée, c'est vraiment d'encourager ça dans chaque quartier. Notre café des parents, dont parlait Jessica tout à l'heure, qu'on a mis en place sur le quartier, on aimerait vraiment... Enfin, il y a plein de... Aublon ou Villejean, des parents qui nous disent « Mais on aimerait bien faire ça aussi. » Et nous, on est tout à fait OK pour les accompagner, pour mettre ça en place, trouver un lieu. Mais l'idée, c'est vraiment de donner de la force à chacun pour réussir à le faire. Hein. Donc, il faut vraiment oser se lancer. Et nous, on est là pour accompagner, pour parler de notre expérience et donc aider les gens à se lancer. Mais on encourage dans chaque quartier parce que c'est plus facile, je pense, d'organiser les choses dans son quartier parce qu'il y a plein de gens qu'on connaît, etc., plutôt que d'aller dans un autre quartier. Mais vous êtes les bienvenus ici. Et en même temps, si on peut vous aider à développer des choses dans votre quartier, c'est avec plaisir, quoi.
Quelle est la problématique à Rennes?
Moi, j'ai entendu sur France Inter, donc comme quoi, parfois ils font bien leur travail, un reportage où, alors c'est pas des enfants, c'est des un peu plus âgés, qui à Pontoise notamment, la police municipale, donc en cela motivée par la maire, vient mettre des amendes aux jeunes qui, mais ça peut être aussi des adolescents hein, mineurs, qui traîneraient. Alors ça va être, ils ont, en fait, ils accumulent les amendes parce que ils ont craché par terre, parce qu'ils ont mis le contact de leur voiture sans monter dedans tout de suite. Enfin, et ils se retrouvent endettés. Ça peut être ce genre de problématique.
Oui, oui, ça, c'est les amendes forfaitaires délictuelles, je crois, le terme précis de ces amendes-là. C'est quelque chose qui est assez récent, enfin, qui date de 2016, je crois. Effectivement, les agents assermentés, comme ça, peuvent mettre des amendes. Normalement, il n'y a que pour les infractions au code de la route qui peuvent mettre des amendes. Mais là, il y a eu cette loi qui a rajouté ça pour une incivilité ou quelque chose. Et en fait, effectivement, sur le quartier, on a eu des cas d'amendes forfaitaires, surtout pendant le Covid en fait, pour par exemple parce que des jeunes ne portaient pas le masque ou des choses comme ça. Et en fait, une fois que les forces de l'ordre ont leur nom, leur adresse et tout ça, certains se voyaient recevoir des amendes pour des choses qu'ils n'avaient pas fait. En fait, ça, les amendes effectivement s'accumulent, mais ça peut aller à des montants jusqu'à des 70 000 euros. Ça met toute la famille bien entendu dans une situation infernale. Parfois, les enfants, les jeunes n'étaient même pas en France, par exemple, ou à Rennes, au moment où ils ont reçu une amende. Donc, c'était vraiment des choses... C'est un abus, quoi. Et ça, avec le défenseur des droits, on s'est vraiment alliés pour parler de ça, défendre ça. La Ligue des droits de l'homme, pardon. La Ligue des droits de l'homme est vraiment intervenue là-dessus. Et on a eu vraiment des cas, et je pense qu'il y en a encore, hein, des cas sur Morpa. Oui.
Pause musicale sur Canal B dans Deux boules vanille. On écoute Agathe Plaisance.
Last night at the station, I've been waiting for you. Smoke lot of cigarettes, waiting for you too. And I love you. Looking
Old Friend, Agathe Plaisance sur Canal B dans Deux Boules Vanille. Retour avec les apprenants et apprenantes de langue et communication et leur interview de Jessica et Amandine, membres de Front de Mer Rennes.
Ben, je crois le fait de pas être représenté, de pas avoir la parole. Encore une fois, moi je suis blanche et bobo, hein. Je fais attention de là où je parle, donc moi on m'écoute assez facilement. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ose plus prendre la parole, par exemple, que Jessica, qui est très bavarde et qui a plein de choses à dire. Mais c'est extrêmement difficile quand c'est pas notre langue, le français, quand on vient d'un autre pays et que donc on ne connaît pas bien les codes, on n'ose pas et tout. Et du coup, moi je trouve que c'est ça qui est très compliqué, c'est de que les personnes blanches laissent la place, en fait, et écoutent vraiment, prennent le temps d'écouter les gens des quartiers populaires qui ont plein de compétences, plein de choses à dire. Et en fait, on nous demande toujours, à nous les mamans, d'aller distribuer des flyers pour tel événement, de traduire. Et en réalité, moi je leur dis à chaque fois, mais embaucher des gens issus des communautés que vous voulez toucher, plutôt que de nous demander à nous bénévolement d'aller tout le temps chercher. Ils nous disent, oui, mais en fait, on a du mal à toucher certaines communautés. Embaucher des gens issus de ces communautés pour qu'ils vous fassent confiance, en fait. Moi, je lutte pour que les personnes blanches écoutent les autres. Enfin, les personnes vraiment françaises, à l'aise. On a toujours l'impression que c'est aux autres, aux personnes qui arrivent de l'étranger, de s'intégrer, de faire l'effort. Alors qu'en fait, nous, quand on parle de communautarisme, je sais pas si vous voyez ce que c'est le fait de se rassembler entre communautés. Bah, c'est tellement plus facile d'être avec des gens qui parlent la même langue que nous, qui ont la même culture et tout, c'est tout à fait normal. Eh ben, moi, je trouve que les Français font aussi du communautarisme dans notre quartier. Nous, clairement, dans l'immeuble dans lequel j'habite, il y a pratiquement que des Blancs et ils restent ensemble et ils veulent pas se mélanger toujours aux gens du quartier. Et ça, je trouve... Enfin, moi, mon combat, il est là aussi d'essayer de convaincre les personnes blanches que... Mais les autres ont aussi des qualités, des compétences et qu'on peut faire appel à eux, aux mamans, pas que pour faire des gâteaux toujours, quoi. Pas que pour s'occuper des enfants, pas que. On a aussi des compétences qu'on peut mettre en avant, en valeur et sans jugement et sans que ça soit juste folklorique, voyez, aussi. Pareil pour le carnaval, on va se déguiser avec les costumes traditionnels. Ben non, c'est pas un déguisement le costume traditionnel. Ça a une valeur, une symbolique, c'est important. On peut le mettre en valeur à certains moments, mais pas le carnaval. Le carnaval, c'est pour se déguiser, c'est pour jouer. Et vous voyez, il y a plein de choses comme ça qu'il faut expliquer. Moi, je suis vraiment dans l'éducation des personnes blanches pour leur dire, voilà, faites attention à ce que vous faites.
Quand j'ai arrivé ici en France, pour moi, le handicap, c'était simplement le physique qu'on voit. Si en arrivant ici, découvert que mon fils a un handicap invisible, justement, il est autiste. Donc, personnellement, moi, je n'ai pas considéré ça comme un handicap avant, etc. Bon, en force de travailler avec lui, etc., on a quand même compris que... Il y a aussi un gros besoin avec les parents qui ne comprennent pas comment on fait la démarche des MDPH. C'est très, très compliqué. En plus, on ne sait pas parler le français. Et les documents là à remplir, c'est vraiment, vraiment très difficile. Et on ne sait pas toujours vers qui aller pour demander l'aide par rapport à ça. Même à l'école, les enseignantes aussi, ils peuvent pas nous aider vraiment dans cette démarche-là. Donc on se trouve très souvent seul et à se débrouiller. Et je trouve que nous, en tant que parents d'étrangers, j'ai vu personnellement dans l'école de nos enfants que il y a pas mal de parents et ils sont bloqués par rapport à ça. Ils ne savent pas comment faire, etc. Nous, en tant que front de mer, on veut aider plus possible avec nos expériences qu'on a eues personnellement. On a les ressources, on a les gens qui peuvent aider. c'est en tant que bourgeois, et etc. Parce que c'est le cas, c'est mon cas en tout cas. Frère Mère est là pour me soutenir. Si j'ai des questions, voilà, je sais que je peux aller toquer à leur porte pour demander un soutien, et etc. Voilà.
Et comment vous agissez pour améliorer la situation?
Alors, on agit par exemple en devenant délégué de parents d'élèves dans nos écoles, en écoutant les personnes, en essayant d'orienter les personnes vers les bons organismes ou les bons interlocuteurs, en s'écoutant, en se faisant des câlins, en se donnant de la force, en passant des moments joyeux aussi, festifs ensemble. On fait souvent la fête, on essaie régulièrement de se faire des moments où on n'est pas tout le temps en train de lutter et de se battre, aussi des moments, voilà, on s'apporte aussi du plaisir entre nous et pour donner de la force.
Comme l'école pourrait améliorer la situation?
Le problème de l'école, c'est un problème vraiment systémique, c'est-à-dire c'est tout le système de l'éducation nationale, de la France en général, qui a un rapport, à cause de notre histoire, la colonisation, tout ça, qui a un rapport de « moi, je suis l'homme blanc qui sait mieux que les autres ». Et du coup, même si chaque individu, enseignant, tout ça, n'a pas envie de faire ça, on est quand même baigné dans cette culture-là, et en fait, c'est très difficile d'oser critiquer l'école, ou en tout cas de faire valoir nos droits à l'école, parce que ils ont l'impression, comme je le disais, de faire le mieux qu'ils peuvent, ce qui est sans doute vrai, et qu'ils ont l'impression de savoir, de tout savoir à l'école. C'est les enseignants, c'est ceux qui savent, qui ont fait des études et qui savent tout. Donc, c'est très difficile pour eux de se remettre en question et d'entendre que, oui, mais là, il y a un problème et on pourrait peut-être travailler ensemble pour le résoudre, en fait. Donc, c'est très difficile pour nous de travailler avec l'école, avec certaines écoles. Il y en a avec qui ça se passe bien, mais souvent, c'est un peu... Quand on dénonce, par exemple, une situation raciste auprès de personnes blanches qui travaillent, qui soient travailleurs sociaux ou enseignants, souvent, la réaction, c'est « mais non, mais on n'a pas voulu faire ça, donc non, il y a un malentendu, vous avez pas bien compris ». Voyez. Et en fait, ils renversent souvent la culpabilité. C'est de votre faute parce que vous avez pas compris ou parce que... Non, mais c'est jamais de leur faute à eux. Vous voyez? Et ça, c'est très dur. Moi, c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment dur. C'est de pas accepter simplement la critique et de toujours, c'est toujours l'autre qui a pas compris. C'est toujours, donc, du coup, de la faute encore de la personne qui vient dénoncer quelque chose de raciste ou quoi. Vous voyez? Et ça, c'est, je trouve ça hyper injuste. Moi, ça me...
Ouais, la fragilité blanche.
Vous écoutez De Boule Vanille sur Canal B.
Quel lien vous faites entre défense de l'écologie et lutte antiraciste dans les quartiers populaires? Et pourquoi?
Alors, c'est aussi une idée que défend Fatima Wassak dans son livre « L'écologie pirate », c'est que quand on a quitté son pays, on a quitté sa terre aussi. Et on se retrouve souvent dans un quartier populaire, très bétonné. On n'a plus de terre. On nous fait bien comprendre que c'est pas notre terre. Et en plus, il y a très peu d'espace vert. Donc vraiment, l'idée, c'est de retrouver ce contact avec la terre qui est très important. Et donc, comme je vous disais, on fait des visites de jardins. Il y a beaucoup, beaucoup de jardins communautaires et tout dans le quartier. Donc on va les découvrir. On va essayer de travailler avec eux, notamment avec la Loupiote. Il y a une association qui a deux jardins et donc qui est, trois jardins même. Tu vois, tu connais mieux que moi. on fait ça. On a participé samedi dernier à Place au Miam, un street food festival, un peu sur le quartier. Jessica a fait le dessert. Notre amie Rama a fait le plat. Et l'idée, c'était de montrer que la cuisine, par exemple, d'autres pays, souvent, enfin, dans l'idée aussi des Français, c'est que souvent, ah non, mais les autres, ils mangent gras, ils mangent comme ça, c'est pas toujours bon, les autres cuisines. Enfin, nous, les Français, on fait la meilleure cuisine du monde, bien entendu. Donc, voilà. Et en fait, là, c'était une façon de montrer que, bah, si, on peut cuisiner de façon saine, équilibrée, avec des produits bio, etc. Et donc, en plus, on est très fiers parce que on a gagné le premier prix.
Bravo. Ouais.
Donc on va faire le marché à manger en septembre. C'est un gros événement, mais on aimerait trouver un producteur bio parce que c'est très difficile de trouver à la fois des produits, de la viande par exemple bio et halal. Donc on aimerait par exemple demander à un éleveur bio de nous réserver une partie de ces animaux pour faire l'abattage halal, par exemple, et qu'on puisse avoir du bio et halal, et qu'on n'ait pas à choisir entre la qualité et la religion, en fait, qu'on puisse avoir les deux, par exemple. C'est des actions comme ça, très précises et très concrètes, qu'on défend.
En ce moment, justement, sur le café de le mercredi, on avait fait une carte alimentaire pour savoir, voilà, on trouve les produits bio, c'est pas simple, et en plus de ça, c'est très cher. Et moi, qui ai une famille nombreuse, de veux bien faire pour me faire manger les enfants sains, bio, locaux, c'est pas très simple. On va toujours pour le prix un peu moins cher, et c'est pas toujours le plus bon pour la santé, pour les enfants, etc. On va toujours ça, en tant que famille nombreuse, on a toujours un petit budget quand les parents sont là, qui travaillent, etc. C'est vraiment très compliqué. Donc, on est en train de travailler dessus pour savoir les produits locaux, bio, et voilà, pour aussi de la viande, des légumes, des fruits, etc. Parce que on fait attention à ce qu'on mange quand même tous les jours. Voilà, moi, en tout cas, je fais très attention à ce que je donne aux mes enfants, etc., des choses industrielles. Voilà, c'est, quand on voit des ingrédients qui mettent par-dessus, on voit énormément de choses qu'on ne comprend rien du tout. N'est pas parce que je connais pas le français, c'est parce que les ingrédients, c'est vraiment, regardons par exemple, des gâteaux industriels, on a les enfants, ils mangent leur goûter, etc. Donc moi, je me force à faire ça moi-même, etc. Par exemple, avec la carte alimentaire, on avait quand même commencé, on va faire avec l'association de la Lupia, on travaille dessus, on se met le mal dans la terre, justement pour bien... On envisageait bientôt de entre nous de faire des ateliers de jardinage. Ouais, parce qu'on trouve que on peut faire une petite potager sur le balcon, les enfants qui va reculter, qui va le planter, va voir le fait grandir, etc. Ce genre de choses qui nous tient à cœur pour les enfants puissent voir ça vient d'où exactement, et voilà, si c'est eux qui ont cultivé ça, c'est une grande fierté. Et pour moi, en tout cas, quelqu'un qui n'a pas le main verte, j'ai des copines qui me donnent un peu de coup de main pour me dire, voilà, quoi faire, etc. Et on est en train de se lancer dedans, voilà. Donc, on va bientôt faire notre propre potager sur le balcon de la maison, même si c'est tout petit, mais on va le faire et on verra ce que ça donne après.
Vous écoutez Deboul Vanille sur Canal B.
Depuis l'existence de Front de Mer dans le quartier, vous voyez quel changement ?
Alors moi, je vois des changements dans le sens où, par exemple, Jessica est à côté de moi et a quand même bien pris la parole. Donc ça, par exemple, je suis fière. Je ne sais pas si vous voyez avec les yeux avec les cœurs quand je la regarde parler. J'adore. tu rigoles, mais c'est vrai. C'est vrai, je suis hyper fière des copines qui osent faire de plus en plus de choses par elles-mêmes, qui osent, par exemple, quand une personne leur dit « Est-ce que tu pourrais m'aider à venir faire à manger ?» et tout, elles disent « Ok, mais si je suis payée, hein, sinon je ne le fais pas bénévolement. » Ce genre de choses, ça y est, je trouve qu'on commence à prendre confiance en soi et tout. Là, j'aime beaucoup. Et puis, dans les... Et si, il y a plein de choses dans les rapports avec l'école, j'ai beaucoup dit que nos rapports étaient difficiles, mais en fait, ça s'améliore. On voit bien quand même que les choses avancent. Avec la ville de Rennes notamment aussi, ils sont vraiment à l'écoute et soutenants pour nous. Quand on dit quelque chose, bon bah voilà, au début c'est un peu difficile à entendre, puis après on voit bien que les choses avancent, qu'il y a des formations qui sont mises en place, enfin en tout cas une volonté de formation antiraciste ou quoi, et ça vraiment c'est important pour nous. On sent qu'on atteint nos objectifs en fait, qu'on est entendu, et je trouve ça hyper important. Donc à la fois on ose prendre la parole plus, et à la fois on est entendu en face, donc c'est bien quoi.
Quels sont vos espoirs pour la prochaine génération?
Eh ben moi j'espère que nos enfants, en nous voyant militer, faire toutes les choses qu'on fait, eh ben j'espère qu'ils vont prendre exemple sur nous et qu'ils vont avoir eux aussi à leur tour le courage de se lancer peut-être par exemple en politique, hein, pourquoi pas, parce qu'il y a besoin de représentants politiques des quartiers populaires. En ce qui concerne mes enfants, blancs encore une fois, qui ont des prénoms très bretons en plus, noms de famille très bretons, ben, j'espère que voilà, en leur montrant tout ça, ben, eux ne reproduiront pas cette domination, enfin le moins possible en tout cas, et qu'ils seront plus ouverts. Enfin vraiment, pour moi, le combat antiraciste, ça se joue à plein de niveaux, et c'est ensemble, en faisant le plus possible de choses ensemble, qu'on arrivera à mon avis à vivre ensemble encore mieux pour les prochaines générations, quoi.
En fait, personnellement, moi, j'ai une ado de 14 ans bientôt, et elle est déjà sous le trace de faire du bénévolat, etc. Et elle me dit très souvent, elle est très fière de sa maman, et c'est ce que je veux, qu'ils soient fiers de leur maman. Et aussi, ma fille, le terme raciste, elle le connaît très bien maintenant. Bah, au collège, ça arrive à tout le monde. Et bah, ils sont quand même dans un quartier populaire. Et dans le collège, et là, il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai, elle m'avait déjà raconté plein de fois. C'est pas forcément pour elle, mais ça arrive aussi qu'elle avait subi le racisme, malheureusement, elle-même, dans le métro, quoi. C'est dans l'endroit public que quelqu'un l'a traité de singe. Mais elle a pas réagi. Et c'est ça, le problème. Les gens, ils ne réagissent pas quand ils voient ce genre de choses. Et après, on ne sait pas comment réagir pour ne pas faire du conflit. Et c'est ça le problème, justement. Des générations qui arrivent, oser parler, dire quelque chose, en fait.
Quel changement souhaitez-vous voir dans la société française?
Eh ben moi, ce que j'aimerais, c'est que au niveau national, en fait, on reconnaisse... alors, déjà, là, cette année, c'est les 20 ans, je dis pas de bêtises, ou 25 ans. 25 ans de la loi Taubira, qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité. Mais il reste encore du boulot à la France, je pense, pour vraiment reconnaître tout ce que... Là, c'est vraiment au niveau d'un système. Vraiment, ça ne dépend pas des individus, ça dépend vraiment de l'État, de reconnaître que, effectivement, l'esclavage a été le pire crime contre l'humanité, et qu'on est encore dans ce système-là. Moi, j'ai entendu un discours de Macron, je ne sais plus, là, je crois qu'il était au Mali, où il disait que, quand même, ils n'étaient pas très respectueux, enfin, qu'ils n'étaient pas assez reconnaissants de tout ce qu'on avait fait pour eux, alors qu'en fait... Si on avait construit des routes, c'était pour mieux ramener ce qu'on pillait, les matières premières et tout, qu'on pillait dans ces pays et qu'on voulait les ramener plus facilement jusque chez nous. Hein. C'était pas pour... si on construisait des hôpitaux et des écoles dans les colonies, c'était pour soigner les Blancs qui étaient là-bas. Hein. C'était pas... moi, ça me choque qu'on ait encore... Que l'État ait encore cette vision coloniale de notre place dans le monde, quoi. En fait, on est encore au centre du monde, et ça, voilà, j'aimerais que l'État reconnaisse un petit peu l'égalité réelle des gens, en fait, de tous les gens, et qu'on accueille au maximum les gens en France, et que ça fasse vraiment partie d'un devoir d'État, en fait, d'accueillir les gens, et que ça soit plus des responsabilités individuelles, mais que ça soit l'État qui reconnaisse tout faire. Voilà.
Nouvelle pause musicale dans De Boule Vanille sur Canal B. On écoute La fin du monde de Sam Sauvage.
Pas vu venir. Accordez-nous une seconde avant d'atterrir. La nuit nous guette, elle nous regarde dans ses muettes. On est jeunes, ils sont bêtes. Et là dans le club, on rêve d'un monde nouveau. Saoulés dans le pub, on sera des héros. Je n'ai pas peur de la mort, j'ai juste un peu peur du noir. Le monde s'écroule sous nos pieds, ça nous empêche pas danser. Demain j'y crois encore, demain j'y crois encore. Et mon cœur, crois-moi, on s'aimera jusqu'à la mort, jusqu'à la fin du monde. C'est pas moi qui le dis, à nous les tragédies. T'entends cette mélodie, regarde devant, au-dessus des incendies, le ciel qui nous sourit, et tous ensemble on crie. Et là dans le club, on rêve d'un monde nouveau, saoulés dans le pain. Sera des héros. Je n'ai pas peur de la mort, j'ai juste un peu peur du noir. Le monde s'écroule sous nos pieds, ça nous empêche pas danser. Demain j'y crois encore, demain j'y crois encore. Et mon cœur, crois-moi, on s'aimera jusqu'à la mort, jusqu'à la fin du monde. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Et bien que ce soit la fin du monde, j'entends le vent du nouveau monde souffler avec moi pour la fin du monde. La fin du monde.
La fin du monde, Sam Sauvage sur Canal B dans De Boule Vanille. On retrouve les stagiaires de langue et communication qui ont rencontré Maya qui travaille à la maison des femmes Gisèle Halimi pour l'ASFAD.
Bonjour, je suis Maya Kerbeleg, je suis chargée de mission projet et partenariat dans le service de l'association de l'ASFAD, le service d'accueil de jour, écoute et prévention, qui est un service qui coporte la maison des femmes Gisèle Halimi à Rennes. L'ASFAD, c'est une association rennaise qui est militante et féministe, qui accompagne particulièrement les femmes en situation de vulnérabilité, mais qui a aussi beaucoup d'autres pôles dans la protection de l'enfance, des crèches et aussi des chantiers d'insertion professionnelle.
Depuis quand existe la maison des femmes Gisèle Halimi à Rennes? Pourquoi elle s'est-elle assise?
La maison des femmes Gisèle Halimi, elle a ouvert en novembre 2023. C'était des idées de l'Hôpital Sud, mais aussi de l'ASFAD depuis plus de 5 ans. Elle s'appelle la maison des femmes Gisèle Halimi. C'était pour rendre honneur aussi à Gisèle Halimi, qui était une femme qui a beaucoup œuvré pour les droits des femmes.
Quel est l'objectif de la maison des femmes?
L'objectif de la maison des femmes, c'est de regrouper le plus d'acteurs, des professionnels de santé, des professionnels du social, du juridique et d'autres professionnels dans une même structure
pour accueillir, accompagner et fluidifier l'accompagnement des femmes victimes de tout type de violence, pour que ce soit plus facile pour les femmes de rencontrer tous ces acteurs dans un même lieu.
Comment les femmes peuvent-elles vous contacter? Et êtes-vous en lien avec les SAMO et les services d'urgence?
Alors les femmes, elles peuvent contacter la Maison des Femmes de la Limite de plusieurs manières. Elles peuvent contacter le standard, l'accueil, de 9h à 17h toute la semaine. Ou bien elles peuvent se présenter spontanément, il n'y a pas besoin d'avoir de rendez-vous, elles vont être accueillies tous les jours, même sans rendez-vous. Et on a aussi une ligne d'écoute départementale, du coup on a des professionnels qui assurent la ligne d'écoute toute la journée. Cette ligne, elle est active 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ça permet à tout le monde, des femmes, des proches, des professionnels, d'appeler pour... parler de leur situation, s'ils ont des questions, s'ils vivent des violences, s'ils en ont vécu avant. Pour des proches, des partenaires, d'avoir des conseils, savoir comment orienter une femme qui est victime de violences, ou savoir quelles sont les missions, comment elles peuvent être accompagnées dans la Maison des Femmes Gisèle Halimi. Alors, on est beaucoup en lien avec le 115. Le 115, ça va être l'hébergement d'urgence. Par exemple, quand des femmes... victimes de violences sont dans des situations de violence à ce moment même et il y a un risque qui est grave et imminent et que madame est jugée, le travailleur social et professionnel évalue que madame, c'est mieux qu'elle soit mise en sécurité. On est en contact avec le 115 pour que madame, on puisse trouver une place d'hôtel pour elle et ses enfants, si elle est accompagnée de ses enfants, pour à peu près 2 semaines. Pour être à l'abri des violences pendant ce temps-là. C'est une mise en sécurité qui peut être renouvelée par la suite, tant que madame n'a pas trouvé un logement plus pérenne dans la durée. Du coup, on est beaucoup en lien avec le 115 et avec les urgences si besoin, s'il y a un risque, voilà, si on est au téléphone, en communication et qu'il y a une situation vraiment d'urgence, oui, on peut être amené à être en contact avec des services d'urgence.
Quels sont les horaires et les jours à quoi?
Accueil. Même le ministre de l'Éducation nationale ne sait pas l'écrire. Okay. C'est un mot compliqué. Ouais, accueil.
Accueil.
Alors, comme je le disais plus tôt, on peut venir tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, physiquement, à la Maison des Femmes Gisèle Halimi, sans rendez-vous, de 9h à 17h, de 9h à 18h. Mais on peut surtout venir sur l'accueil de jour. On a un accueil de jour à la Maison des Femmes Gisèle Halimi, qui est porté par le service de la SFAD. C'est un lieu assez grand qui est pensé un petit peu comme les pièces d'une maison, avec une cuisine, des machines, un espace pour les enfants, un espace multimédia, une pièce pour se reposer, un jardin et des canapés. Voilà, c'est un lieu qui est très chaleureux, très sécurisant pour toutes les femmes qui pourraient être victimes de violences, et notamment de violences conjugales et intrafamiliales, puissent venir se ressourcer dans cet endroit, puissent voilà, venir échanger avec d'autres femmes et puissent rencontrer des professionnels pour parler de leur situation. Du coup, cet accueil de jour, il est ouvert 3 jours par semaine, les lundis, les mercredis et les vendredis, de 9h30 à 16h30. Mais il y a toujours une possibilité aussi de venir en dehors de ces créneaux. Ce ne sera pas sur l'accueil de jour, mais dans tous les cas, madame sera reçue par d'autres professionnels de la Maison des Femmes Gisèle Halimi.
Combien de personnes travaillent dans la structure?
Alors, comme je disais, dans la structure, il y a le service de la SFAD, mais aussi le service de l'Hôpital Sud. Du coup, on est 2 équipes. Du coup, du côté de l'hôpital, il y a énormément de professionnels aussi, comme des médecins légistes, des gynécologues, des sages-femmes, des infirmières et beaucoup d'autres professionnels. Et du côté de la SFAD, ça va être des travailleurs sociaux, ou qui ont différentes formations, qui peuvent être EJE, c'est les éducateurs jeunes enfants, des éducateurs et des éducatrices spécialisées, des assistantes sociales et d'autres types de formations. Mais ils ont tous et toutes les mêmes missions dans le service. Ils sont écoutants et accueillants. Dans la structure, on est plus de 30 professionnels. Beaucoup de personnes sont là à petit temps. Ils sont là une journée par semaine parce qu'ils sont, pour les professionnels de santé, ils travaillent aussi dans leur cabinet ou à l'hôpital. Et c'est la même chose pour le service de la SFAD. On a aussi un psychologue, également aussi du côté de l'hôpital. Mais dans le service de la SFAD, il y a également un psychologue, une chargée de mission prévention aussi. On fait beaucoup de prévention. On va à l'extérieur pour aller voir des jeunes, des écoles, pour aller leur parler des violences. Qu'est-ce que c'est? Parce que les personnes ont beaucoup d'idées sur les violences, qu'est-ce que c'est. comme je disais plus tôt, les violences, c'est pas seulement des violences physiques, ça peut être plein de choses. Et beaucoup de personnes ont ces idées-là. Du coup, l'idée d'aller à l'extérieur et rencontrer beaucoup de gens différents, surtout des jeunes, pour leur dire ce que c'est des violences, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, connaître les ressources du territoire, les dispositifs, du coup, notamment la Maison des Femmes, Gisèle Halimi. Du coup, voilà, on a une chargée de mission prévention aussi et un psychologue qui assure cette mission-là.
Quel est le rôle des bénévoles et comment devenir bénévole?
Alors, dans le service d'accueil de jour, d'écoute et de prévention de la SFAD, on recrute des bénévoles, notamment pour venir aider les professionnels sur l'accueil de jour. Alors, ils n'ont pas le rôle des professionnels, ils viennent aider simplement parce que sur cet accueil de jour, parfois, on peut avoir entre 20, 30 personnes qui viennent avec leurs enfants aussi. Du coup, ça fait beaucoup de monde. Il faut s'occuper de pas mal de choses. Voilà, on offre aussi du café, des petits snacks. On joue un petit peu avec les enfants. On peut proposer plusieurs activités un petit peu créatives. Voilà, qui permettent aux femmes de se soulager un petit peu, de se ressourcer. Du coup, les bénévoles, ils viennent en appui sur cette aide technique un petit peu et matérielle. Ils sont formés, les bénévoles, bien sûr. Pour devenir bénévole sur le service, les personnes envoient leur candidature avec leur CV, leur lettre de motivation. Et ensuite, on fait passer un entretien aussi avec le psychologue et la responsable de service. Et ensuite, ils vont pouvoir commencer leur formation si leur profil convient et adapté au service. Ils vont pouvoir faire plusieurs formations sur les violences et des temps d'immersion sur l'accueil de jour, des premières fois, quelques heures, juste pour voir comment ça se passe, pour observer. Et petit à petit, ils vont pouvoir aider un petit peu plus. Les bénévoles, ils vont aussi beaucoup aider sur la mission prévention. Ils vont accompagner les professionnels pour pouvoir les aider. Parce qu'on a quand on fait des interventions de prévention, on a un jeu, un outil pédagogique qui a été créé par le service. Et qui nous permet, sous forme de jeu, de parler des violences, d'aborder différentes notions sur les violences faites aux femmes. Et du coup, les bénévoles vont pouvoir aider pour animer et co-animer ce jeu.
Quel type de services sont proposés?
Alors, selon la demande de madame, selon la situation de madame, il y a différents types de services qui peuvent être proposés. Si madame est victime de violences conjugales et ou intrafamiliales, voilà, elle va pouvoir accéder à l'accueil de jour. Elle va pouvoir avoir un accompagnement par l'écoute au fur et à mesure. Elle va pouvoir revenir autant de fois qu'elle le souhaite, selon sa temporalité. Très important, ça. Elle n'est pas obligée de revenir chaque semaine. Elle revient quand elle veut aussi, pour échanger sa situation, parce qu'il faut qu'elle soit prête aussi à échanger sur sa situation. On a des accompagnements avec le psychologue également, mais ça se fait sur orientation des travailleurs sociaux. Il faut que les travailleurs sociaux présentent la situation au psychologue pour qu'il puisse accepter le suivi. On va également du coup avoir, avec la ligne d'écoute, c'est un service d'écoute continue. Comme il y a aussi les professionnels de santé dans cette structure, les femmes vont pouvoir avoir aussi accès à des consultations médicales selon le type de violence, des violences sexistes et sexuelles, des violences dans les soins, des violences hors cadre familial, vont pouvoir bénéficier de consultations médicales, de rendez-vous avec une assistante sociale hospitalière et entrer, si elles le souhaitent, dans des parcours de soins qui durent à peu près un an ou un an et demi.
Quels sont les services les plus demandés?
Alors, il faut savoir que dès que la Maison des Femmes Gisèle Halimi a ouverte en novembre 2023, il y a eu énormément de demandes dès son ouverture. Malheureusement, tout de suite, il y a eu beaucoup de personnes à contacter la ligne d'écoute qui existait déjà, mais aussi à venir sur le service d'accueil de jour et d'écoute. Il existait déjà aussi avant, mais il n'était pas dans la Maison des Femmes Gisèle Halimi. Et quand la Maison des Femmes Gisèle Halimi a été créée, voilà, tout le monde en a entendu parler. Du coup, beaucoup de femmes se sont aussi présentées dès le début. Et la ligne d'écoute départementale, elle est très demandée. Il y a énormément d'appels. Pour vous donner une idée, en 2025, on est à peu près à plus de 4000 appels sur l'année, ce qui est énorme aussi. Les appels, ils peuvent durer 20 minutes, mais ils peuvent aussi durer une heure ou plus. Voilà, du coup, il y a énormément d'appels sur cette ligne d'écoute tous les jours. Et sur l'accueil de jour, c'est aussi un lieu qui est très demandé. Et on est à peu près à plus de 2500 passages de femmes. Du coup, même si les femmes reviennent à plusieurs reprises, voilà, on est à 2500 passages à peu près sur l'année 2025. Et un peu plus de 300 passages d'enfants également sur cet accueil de jour. Donc, c'est des services qui sont très, très demandés.
« Vous écoutez Debout le Vanille sur Canal B.
Quel est le pourcentage de femmes étrangères?
Alors oui, effectivement, on a énormément de femmes étrangères également qui se présentent sur l'accueil de jour ou qui contactent la ligne d'écoute. Il faut savoir que les violences, ça touche toutes les femmes. Hein. Toutes les femmes de toute classe sociale, tout pays, tout âge. Vraiment, ça va. Nous, on reçoit des femmes qui vont de 18 ans à 75 ans. Toutes les différentes parties de la population peuvent être touchées par les violences. Pour les femmes étrangères, c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés également. Déjà pour la barrière de la langue. Du coup, on va pouvoir aussi faire appel à des interprètes qui vont nous aider pour communiquer avec madame. Aussi, madame peut venir accompagner de proches qui vont pouvoir l'aider à traduire aussi. On a aussi, pour les femmes étrangères, on a des permanences juridiques. On a différents partenaires comme SOS Victimes 35, le CIDFF, le groupe de défense des victimes, des avocats du barreau de Rennes. Et on a aussi une juriste, Samira Garafi, qui est juriste spécialisée en droit des étrangers et en droit international de la famille. Elle tient une permanence, elle vient chaque semaine pendant une demi-journée à la Maison des Femmes. Et pour les femmes étrangères, cette juriste spécialisée en droit d'étranger, elle va pouvoir aussi aider dans le renouvellement de titre de séjour si on est avec un conjoint violent, par exemple, ou des divorces alors que monsieur est d'un autre pays. Voilà, dans toutes ces questions qui vont être un petit peu plus compliquées. On a également, pour les femmes qui sont étrangères, un groupe de parole aussi qui est dédié vraiment aux femmes exilées qui ont vécu des violences sur le parcours migratoire ou dans le pays d'origine.
Est-ce que des personnes LGBT+ viennent aussi?
Alors oui, effectivement, comme on le disait un peu plus tôt, ça touche les violences faites aux femmes, ça touche tout le monde. Nous, sur notre service, on accueille toutes les personnes qui se sentent femmes. Du coup, ça peut être des personnes dans des couples aussi homosexuels, des personnes transgenres, qui peuvent se présenter sur le service si elles sont victimes de violences conjugales et ou intrafamiliales. Comme on le disait plus tôt, il y a beaucoup de stéréotypes sur les violences faites aux femmes, que voilà, ça va être seulement le conjoint homme qui va être auteur de violences. Mais la violence conjugale, ça se passe aussi beaucoup dans des couples homosexuels, dans des couples transgenres. Du coup, voilà, nous, on reçoit dans le service toutes les femmes qui se sentent femmes, qui sont victimes de violences conjugales et ou intrafamiliales. Et on va aussi, par la mission prévention, essayer de détruire ces stéréotypes pour sensibiliser le plus de personnes voilà, à ces questions de violence et sur le fait que vraiment ça touche tout le monde dans la société.
Comment votre structure est-il financée?
Alors la structure, elle est financée par des fonds publics aussi, par la ville, par le département, par l'État et par d'autres partenaires aussi comme la CAF, voilà, selon les activités qu'on développe. Et ensuite, elle est majoritairement financée par des financements publics. Et ensuite, on va aussi aller répondre à des appels à projets et de dons de particuliers. On a beaucoup de gens qui nous contactent ou qui organisent des événements et qui souhaitent donner l'argent qu'ils ont récolté sous forme de dons à la SFAD et à notre service.
Que conseillez-vous aux femmes qui souffrent en silence?
C'est une très, très bonne question. Alors, comme je disais plus tôt, l'important, c'est d'être présent parce que beaucoup de femmes, même victimes de violences et qu'ils le savent, c'est pas facile de partir. On ne peut pas partir comme ça du jour au lendemain. Si aussi on est dépendant aussi financièrement, administrativement, on ne peut pas partir du jour au lendemain comme ça. Et quand on est dans des violences conjugales ou intrafamiliales, surtout conjugales, on est dans ce qu'on appelle une situation d'emprise. Ça veut dire qu'on ne voit pas forcément, mais monsieur ou l'auteur des violences, il vous a mis dans une situation d'emprise, vous êtes un petit peu bloqué. On ne voit pas comment on peut partir, on ne voit pas comment on peut faire autrement. Du coup, l'important pour quelqu'un qui souffre en silence, bah, c'est d'être entouré aussi, de pouvoir éventuellement avoir des personnes de confiance pour en parler. Je pense aussi également que les personnes qui sont présentes, on ne doit pas dire à madame « Ah, vous devez partir, vous devez faire ça ». Il ne faut pas donner un ordre, il ne faut pas dire ce qu'elle doit faire. Madame, elle sait dans quoi elle est prise, elle sait de quoi elle est victime. Madame qui va décider ensuite du moment qu'elle choisira pour partir éventuellement. Il faut faire tout un travail, et c'est ce que fait le service de l'ASFAD aussi au sein de la Maison des Femmes et des Ennemis. C'est un travail de conscientisation des violences, d'être conscient de ce qu'on vit et de pouvoir reprendre confiance en soi, de son estime de soi, et de pouvoir agir sur son pouvoir d'agir, c'est-à-dire de dire moi je suis moi et moi je dis non, moi je pars, moi. C'est important de pouvoir faire ça. Et c'est pas forcément facile pour des femmes qui ont vécu dans des violences, dans des situations de violence pendant assez longtemps et qui n'ont pas du tout eu ce pouvoir d'agir, qui n'ont plus du tout été autonomes.
De Boule Vanille, c'est terminé pour aujourd'hui. On se quitte avec une danse de mauvais goût, Mansfield Tia et Odezen. À bientôt, salut.
Pour te dire que tes mains, que tes gestes et que tes yeux, pour te dire que tes seins, ton sourire et tes cheveux sont les choses que je veux, ici et dans ma tombe. Quand tes silences se font trop longs, je me languis de tes paroles. Et combien même j'ai raison, c'est le silence qui résonne. Tes silences, je les veux, ici et dans ma tombe.
C'est garanti son style. Un paquet dans ma poche, j'arriverai bien à temps. Où sont passés mes proches? Je traîne mes pompes en avant. À gauche, ils baratinent. À droite, ils ont plus de cœur. On dirait un bal de mort, une danse de mauvais goût. Des bouches sur une tétine, le dollar l'air en fou. Je veux pas jouer dans cette cour. Funambule dans l'arène, accroche-toi si tu le peux. Demande pas de rendez-vous.
Pour te dire que tes mains, que tes gestes et que tes yeux, pour te dire que tes seins, ton sourire et tes cheveux sont les choses que je veux.
Je sais bien que tu trouves ça triste, mais moi je vois dans tes yeux. La roue tourne dans le vide.
Quand tes silences se font trop longs, je me lance.
Le vide tourne comme une roue.
Et combien même j'ai raison, c'est le
accroche-toi
silence
si
qui résonne.
Tu peux. Tes rêves en te voyou. Plus vite qu'une Ferrari, plus loin qu'une belle villa. Un jour on se dira tout, et on verra que c'est rien. La vie pour rendez-vous. Un beau cœur clarifié. Et c'est à peu près tout.
Quand tes silences se font trop longs, je me languis de tes paroles. Et combien même j'ai raison, c'est le silence qui résonne. Tes silences, je les veux, ici et dans ma tombe.
Les routes s'emmènent. Où sont passées les fleurs? Sans un doute, sans un rêve, la vie s'achève. Où sont passés les vœux? Tes rires sont chers. Ils valent plus que mes bleus.
Quand tes silences se font trop longs, je me languis de tes paroles. Et combien même j'ai raison, c'est le silence qui résonne. Tes silences, je les veux, ici et dans ma tombe. Je sais ce que je veux, dans le fond c'est vivre encore. Je choisis les précieux pour éloigner un peu la mort. Aujourd'hui j'ai ce que je veux, que la mort vienne quand je dors.
De Boule Vanille,
je pense que je vais prendre deux boules vanille.
Je sais pas.